Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Oana Favennec. Bonjour Oana.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à tous. Le président tunisien est mort, annonce de la présidence. À 92 ans, Béji Caïd Essebsi était à nouveau hospitalisé après des malaises fin juin. Le deuxième épisode caniculaire de l'été atteint son apogée aujourd'hui et la France n'est pas la seule concernée. Un réchauffement climatique global qui a des effets jusque dans le cercle arctique. Des feux de forêt particulièrement intenses ont été repérés par les satellites et cela pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Brûlante aussi la joie des Portoricains. Deux semaines de manifestations ont poussé le gouverneur à s'incliner. Il a démissionné. À 12h45, la grande table.
Oui, on va parler de l'exposition Fil Noir de la Maison Européenne de la Photographie avant de faire le portrait de la romancière et poétesse Vénus Kourigata.
À tout à l'heure, Maëlys. Le président tunisien est mort. Béji Caïd Essebsi était en soins intensifs à l'hôpital de Tunis. À 92 ans, le président tunisien avait déjà été hospitalisé plusieurs jours, fin juin, après un grave malaise. Il est donc décédé, annonce de la présidence il y a quelques minutes. Nadine Epstein.
Appelé aussi par ses initiales, BCE était revenu aux affaires en février 2011, au lendemain de la chute et de la fuite de Ben Ali. Président du gouvernement provisoire, Béji Caïd Essebsi organise en 8 mois les premières élections libres et démocratiques. Mais il perd, battu par les islamistes d'Ennahda. Au scrutin suivant, en 2014, le dirigeant politique, à la tête d'une vaste coalition Nida Tounes, est élu à la magistrature suprême. Le locataire de Carthage, doté d'aisance orale et du sens de la formule, aimait répéter « Nous voulons un État du 21e siècle, un état de progrès. Ce qui nous sépare de ces gens-là, en parlant des islamistes d'Ennahda, ce sont 14 siècles. En 2015, après 3 attentats qui ont tué 60 personnes au musée du Bardo à Tunis, dans un hôtel à Sousse et contre un bus de la sécurité présidentielle, le chef de l'État Essebsi proclame l'état d'urgence dans toute la Tunisie. À l'actif de l'action de BCE, l'abrogation de l'interdiction du mariage d'une Tunisienne avec un non-musulman et l'adoption de lois contre les violences faites aux femmes. En revanche, la loi sur l'égalité dans l'héritage est toujours en chantier.
Nadine Epstein. À Porto Rico, la rue exulte. Elle a fait tomber le gouverneur après 2 semaines de manifestations intenses. Ricardo Rossello a annoncé sa démission. Il partira le 2 août. Ce sont les révélations de conversations entre le gouverneur de l'île caribéenne et des responsables locaux qui ont mis le feu aux poudres. Valérie Crova.
Depuis son bureau de gouverneur, encadré du drapeau portoricain, Ricardo Rossello s'adresse l'air grave à ses concitoyens.
Je comprends que je suis devenu une difficulté pour que l'on puisse continuer à avancer. Après avoir écouté la contestation, parlé à ma famille et pensé à mes enfants, j'ai pris la décision suivante. Je vous annonce aujourd'hui que je renonce au poste de gouverneur à partir du vendredi 2 août à 5 heures de l'après-midi. Jusqu'à cette date, je me chargerai de mettre en œuvre une transition ordonnée.
Sa décision a été saluée par des cris de joie devant sa résidence de San Juan, où 1 million de personnes avaient défilé lundi pour réclamer sa démission. Ricardo Rossello a fini par céder face à l'ampleur de la contestation, soutenue par plusieurs personnalités de l'île, dont le chanteur Ricky Martin, moqué dans des messages homophobes qui ont été rendus publics. D'autres messages font apparaître que le gouverneur de Porto Rico et 10 de responsables se sont rendus coupables de malversations et de détournement de fonds publics après le passage de l'ouragan Maria en 2017. Ils pourraient être poursuivis par la justice.
Valérie Crova. En Espagne, dernière chance pour Pedro Sanchez cet après-midi d'obtenir la confiance et de former un gouvernement. Mais en état, Podemos et le parti socialiste du Premier ministre s'accusent mutuellement de bloquer la formation d'une coalition. Nous n'allons pas entrer au gouvernement à tout prix, a prévenu le chef des négociateurs de Podemos, Pablo Echenique, dans une interview à la radio. Le Parti socialiste lui répond : nous vous proposons de placer 4 personnes au gouvernement, mais sans les attributions qui permettraient d'améliorer les conditions de vie de la population. Des otages au Nigeria, l'ONG Action contre la faim demande aujourd'hui la libération de ses 6 employés, enlevés il y a 1 semaine dans le nord du pays. Un groupe djihadiste nigérian affilié lié à l'État islamique a revendiqué l'enlèvement dans une vidéo. En Allemagne, AKK a été intronisé ce matin devant les députés du Bundestag. Annegret Kramp-Karrenbauer a été nommée pour succéder à Ursula von der Leyen au poste de nouvelle ministre de la Défense. Et dès son arrivée, la dauphine d'Angela Merkel a relancé le débat sur les dépenses militaires. Nathalie Versieux.
Les pannes du matériel militaire de l'armée allemande et même des avions du gouvernement sont légendaires. Quantité de jets et d'hélicoptères cloués au sol, faute de pièces détachées ou de personnel, manque de munitions dans les entraînements. Après des années d'économie, la question du budget militaire est posée, surtout depuis que l'élection de Donald Trump a relancé la polémique sur la participation allemande à l'OTAN. La République fédérale consacre 1,2% de son PIB à la défense. Les membres de l'Alliance se sont fixés un objectif commun de 2% de leur PIB pour les dépenses militaires. La nouvelle ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, entend inverser la tendance comme elle l'a assuré lors de son intronisation.
Je me tiendrai à l'objectif que s'est fixé le gouvernement fédéral, un objectif sur lequel tous les membres de l'Alliance se sont mis à plusieurs reprises d'accord de viser la barre des 2% du PIB.
Les propos de la ministre pourraient rassurer l'administration américaine, mais ils sont un couac de plus au sein de la fragile coalition d'Angela Merkel. Le parti social-démocrate allié aux chrétiens-démocrates de la chancelière refuse en effet toute hausse des dépenses militaires. Un bras de fer pourrait donc s'engager dans les mois à venir entre la nouvelle ministre de la Défense et dauphine d'Angela Merkel et l'intransigeant ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz. Le tout alors que la presse allemande évoque une possible fin de la coalition à l'automne, au lendemain de 3 élections régionales qui s'annoncent catastrophiques pour les partis du gouvernement en ex-RDA.
20 départements en vigilance rouge à cause de la canicule, 60 autres en vigilance orange. La France a chaud pour le troisième jour consécutif et la nuit dernière n'a pas apporté de répit. Au plus frais de la nuit, il faisait 26,8 degrés à Bordeaux, un record, 23,2 degrés à Lille, record également battu à Phalsbourg en Moselle. Véronique Reberotte, bonjour.
Bonjour.
La France n'est pas la seule concernée par cet épisode caniculaire.
Non, ces records de chaleur tombent partout dans le monde. Des records absolus sont franchis en ce moment, globalement des températures à au-dessus de 40 degrés. En France, vous l'avez dit, en Belgique aussi, en Allemagne, aux Pays-Bas, où il faut asperger le métal des ponts routiers pour éviter qu'ils ne se déforment. On peut aussi citer le Royaume-Uni, le Luxembourg, l'Italie ou la Suisse encore, où le dégel en haute montagne est intense. Plus loin de nous, l'Inde suffoque sous la chaleur, les villes du Nord, surtout 51 degrés au Rajasthan, sécheresse historique, des dizaines de milliers de villages indiens n'ont plus d'eau. Le pôle Nord connaît aussi des températures sidérantes, 21 degrés relevés dans la station météo la plus au nord du monde, au lieu des 6 degrés habituellement à cette saison. Une photo prise en juin dernier illustre la fonte accélérée en ce moment de l'Arctique. On y voit, au Groenland, des chiens de traîneau sur la banquise paraissant marcher sur l'eau. La quasi-totalité donc de la Terre vit en ce moment la période la plus chaude depuis 2000 ans, nous disent les paléoclimatologues. Études à l'appui, leur explication. Eh bien, autrefois, la variation des températures était due à des facteurs naturels, soleil, volcans, ou des variations spontanées comme des fluctuations de courants marins qui modifiaient régionalement les températures. Désormais, plus aucun doute face au caractère, à ce caractère homogène de ces vagues de chaleur, ce sont bien les activités humaines qui dérèglent mondialement le climat.
Véronique Reberotte. La chaleur qui étouffe le monde, il a fait jusqu'à 32 degrés en Alaska au début du mois. Alaska, Groenland, Sibérie, où une centaine de feux de forêt ont été repérés. Les températures élevées dans le cercle arctique attisent ces feux, plus importants que les années passées. Et les conséquences, Capucine Jaffet, pourraient être très sérieuses sur le réchauffement de la planète.
De gigantesques fumées noires, c'est ce que les satellites ont réussi à capter de ces feux de forêt. Difficile de savoir si ces incendies sont dus au réchauffement climatique, mais cela pourrait se reproduire à l'avenir. Mark Parrington est scientifique au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme.
On sait que les températures dans le cercle arctique augmentent de manière plus rapide que dans le reste du monde. Si ça continue, à l'avenir, la région deviendra plus chaude et plus sèche et ces incendies se multiplient. multiplieront.
Et une multiplication de ces incendies pourrait avoir de lourdes conséquences.
L'inquiétude avec ces feux qui sont très proches de la banquise, c'est que la glace pourrait noircir avec le dépôt du carbone. Et ça pourrait provoquer une fonte plus rapide de la banquise. Et puis la fumée est très dense, donc il y aura sûrement un impact sur la qualité de l'air et peut-être même loin de là où les feux brûlent.
Depuis juin, les feux ont émis 50 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions totales à l'année d'un pays comme la Suède.
Nissan veut se délester de 12 500 emplois. Ses bénéfices d'exploitation ont plongé de 98,5% au premier trimestre de l'exercice en cours à 13,3 millions d'euros. Face à la baisse des ventes, cet allié de Renault a annoncé ce matin des coupes radicales. À Tokyo, Yann Rousseau.
Au total, Nissan va se séparer sur 4 ans de 12 500 personnes. Cela représente à peu près 10% de l'ensemble de ses effectifs. À titre de comparaison, quand Carlos Ghosn avait été envoyé par Renault pour sauver Nissan de la faillite, c'était en 1999, il avait lui supprimé 14% de l'ensemble des emplois. Aujourd'hui, Hiroto Sakawa, le PDG Nissan, n'a pas voulu donner le nom des 14 sites de production qui sont concernés par ces fermetures de lignes d'assemblage. Mais il a quand même lâché l'exemple de l'Indonésie et de l'Espagne. On sait qu'il va y avoir aussi des coupes au Japon et en Amérique du Sud. La France, elle n'est pas concernée, car elle n'a pas d'usine Nissan. Globalement, Nissan veut en fait renverser sa philosophie. Pendant des années, Carlos Ghosn avait privilégié la course au volume, convaincu que la profitabilité de la société allait s'améliorer avec la progression de sa taille. Mais ça ne fonctionne pas toujours, la conjoncture n'est pas bonne sur plusieurs marchés en ce moment, et le groupe se retrouve donc avec des très grandes usines qui tournent à vide. Donc il n'y est plus question de vendre toujours davantage de voitures, mais de gagner de l'argent sur chaque modèle fabriqué, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Nissan va même complètement arrêter de fabriquer un modèle sur 10. Cette révolution va prendre du temps et il n'est pas certain qu'elle sera menée par Hiroto Sakawa. L'entourage du PDG parle de plus en plus de son ras-le-bol et la direction de Nissan ne cache pas qu'elle lui cherche un successeur.
Yann Rousseau à Tokyo pour France Culture. En France, Pôle emploi vient de publier ses chiffres pour le second trimestre. Le nombre de chômeurs en catégorie A baisse de 0,4% sur le trimestre et de 1,9% sur un an. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour, Roana.
Le chômage continue donc sa lente décrue.
C'est ce qu'on peut dire en effet. En moyenne, au deuxième trimestre 2019 et en France métropolitaine, les personnes tenues de rechercher un emploi et donc inscrites dans les catégories A, B et C sont 5 579 500, dont 3 377 000 sans aucune activité, soit effectivement une légère baisse par rapport au trimestre précédent, moins 0,4%. Précisément 14 600 chômeurs sans aucune activité de moins. On rappelle qu'au premier trimestre 2019, le chômage avait là encore légèrement diminué de 0,7%. On peut donc dire que la baisse continue mais qu'elle est moins marquée. Même si, il faut le noter, on remarque une nette augmentation des chômeurs des catégories D, qui comptabilisent les personnes en formation, les contrats de sécurisation ou les personnes en maladie, et de catégorie E, contrats aidés ou création d'entreprise. Ces catégories augmentent de 2,5 et 3,3%. Donc, si on récapitule, toutes catégories confondues, A, B, C, D et E, la baisse du nombre de chômeurs selon le ministère du Travail est de 0,1%, autant dire une quasi-stabilité. L'INSEE, de son côté, prévoit toujours 8,3% de taux de chômage en France à la fin de l'année. On s'éloigne doucement de la barre symbolique des 10% de chômeurs. Cette lente décrue, vous l'avez dit, est censée être accélérée encore par la réforme de l'assurance chômage. La durée minimale de travail exigée pour ouvrir des droits sera réduite. Le seuil pour recharger ses droits sera lui rallongé, des règles plus contraignantes qui, si l'on en croit Muriel Pénicaud, devraient permettre, en plus de faire faire des économies au régime d'assurance chômage, de faire baisser le nombre de chômeurs de 250 000, un chiffre largement surévalué selon la plupart des analystes.
Anne-Laure Chouin. L'homme volant a échoué à traverser la Manche. Frankie Zapata, qu'on a pu notamment voir debout sur son flyboard lors du défilé du 14 juillet, a décollé ce matin de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Il est tombé dans les eaux anglaises au moment du ravitaillement en kérosène. La traversée est donc annulée, mais Frankie Zapata va bien, selon le maire de Sangatte. L'armée française va, elle, tenter d'aller plus haut et de mettre en place un commandement militaire de l'espace. La ministre des Armées, Florence Parly, est à Lyon aujourd'hui pour développer l'annonce sibylline d'Emmanuel Macron le 13 juillet. Une nouvelle branche militaire installée à Toulouse, rattachée à l'armée de terre, avec des moyens, somme toute, assez limités, 200 personnes et un budget de 3,6 milliards jusqu'à 2025. Le temps de ce dernier jour de canicule, plus de 35 degrés attendus sur la plupart des départements, avec même des pointes à 40 voire 43 degrés sur le quart nord-est, le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. La façade atlantique et le littoral breton seront les plus au frais. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction à 18h.